La jeune femme a disparu sur le chemin entre l'arrêt de bus et sa maison. Les forces de l'ordre ont commencé les recherches, supposant qu'il s'agirait d'une affaire simple. À la surprise générale, cependant, cette affaire est devenue l'une des histoires les plus complexes et sensationnelles de l'histoire criminelle britannique. Bien que l'enquête ait été officiellement close assez rapidement, les conséquences continuent de susciter de vifs débats jusqu'à aujourd'hui. Helen McCourt est née le 29 juillet 1965 dans la petite ville anglaise de Bootle. Bientôt, la famille Tuss s'est agrandie avec un frère cadet dont Helen s'est occupée dès son plus jeune âge. Plus tard, les parents se sont séparés. La mère d'Helen a fondé une nouvelle famille et ils ont déménagé dans le paisible village de Billinge près de la ville. Billinge était connu pour sa tranquillité. Les incidents graves y étaient rares. Les habitants se connaissaient bien et se sentaient en sécurité. Helen a grandi dans cette atmosphère paisible, entourée d'amis et faisant la joie de ses parents par son comportement. Après avoir terminé ses études, la jeune femme a trouvé un emploi dans une compagnie d'assurance à Liverpool. Elle est restée vivre à Billinge et faisait la navette quotidiennement en train et en bus jusqu'au bureau. Le 9 février 1988, Helen est partie au travail comme d'habitude. À l'origine, elle et sa mère avaient cadé prévu de déjeuner ensemble, car elles travaillaient à proximité l'une de l'autre. Mais le temps s'est soudainement dégradé. Un vent fort s'est levé et il a commencé à pleuvoir. C'est pourquoi elles ont décidé de reporter leur déjeuner commun à un autre jour. La mère d'Helen rentrait habituellement à la maison plus tôt que sa fille. Peu avant la fin du travail, Helen l'a appelée et lui a dit qu'elle avait un rendez-vous le soir. Elle a demandé de lui garder le dîner au chaud pour qu'elle puisse se préparer. Normalement, Helen rentrait peu après 17 heures. Mais ce jour-là, elle était manifestement en retard, ce qui inquiétait sa mère. Peu après, les informations ont rapporté qu'un arbre était tombé sur les voies de chemin de fer à cause de la tempête, perturbant temporairement le trafic ferroviaire. Vers 19 heures, lorsque la mère s'est à nouveau inquiétée, elle a décidé d'appeler la compagnie ferroviaire. Après avoir expliqué la situation, elle a appris que le problème de l'arbre s'était produit dans une autre section et n'avait pas affecté l'itinéraire d'Helen. À ce stade, la femme a commencé à s'inquiéter sérieusement pour sa fille. Helen rentrait presque toujours à l'heure et informait toujours des retards. Malgré l'absence de téléphone portable, elle pouvait appeler depuis le travail ou depuis l'une des nombreuses cabines téléphoniques publiques. La mère pensait que quelque chose de désagréable aurait pu arriver à Helen à cause de la tempête. Par exemple, la forte pluie et le vent auraient pu provoquer une chute et une blessure. La mère inquiète et son fils ont commencé à appeler les hôpitaux environnants, espérant trouver quelqu'un ressemblant à Helen, mais leur recherche est restée vaine. Supposant que la fille s'était peut-être restée plus longtemps au travail, la femme a contacté le bureau. Là, on lui a dit qu'Helen avait quitté le lieu de travail il y a plusieurs heures déjà. Les amis de la jeune femme n'avaient également aucune idée de l'endroit où elle pourrait se trouver. Alors, la mère, le beau-père et le petit ami d'Helen ont décidé de partir eux-mêmes à sa recherche. Ils ont suivi l'itinéraire habituel de la jeune femme du travail à la maison. Helen prenait toujours le même chemin. Elle montait dans le train à Liverpool, voyageait jusqu'à Saint. Helen, et de là, prenait le bus pour Whiston. Après n'avoir trouvé aucune trace d'Helen, la famille s'est tournée vers la police. Les agents ont immédiatement informé leurs collègues à Liverpool et dans les environs et ont diffusé une description de la disparue, mais la recherche est restée sans résultat. Le lendemain matin, alors qu'Helen n'était toujours pas apparue et ne s'était pas manifestée, les policiers ont commencé à reconstituer son itinéraire et le déroulement de la soirée. Ils devaient découvrir à quel point de son chemin la jeune femme avait disparu. Les enquêteurs ont fait appel au public pour obtenir de l'aide et ont interrogé les collègues d'Helen, le personnel de la gare et les compagnies de bus. Finalement, ils sont arrivés à une conclusion inattendue. Les enquêteurs ont confirmé que la jeune femme avait effectivement pris le train puis le bus vers son village ce soir-là. Cela a créé de la confusion, car de l'arrêt à son appartement, il n'y avait qu'un pas, à peine 200 mètres. Les enquêteurs ont commencé à envisager la possibilité que quelque chose de désagréable soit arrivé à Hélène sur le chemin du retour, car s'il s'agissait d'un incident ordinaire, on l'aurait déjà trouvé. Ils ont commencé à vérifier l'entourage proche d'Hélène, car dans de telles situations, des connaissances sont souvent impliquées. Son petit ami et son beau-père avaient des alibis solides pour cette soirée. Les amis et connaissances de la jeune femme ont également été exclus du cercle des suspects. Avec des équipes de recherche de 120 agents, la police a soigneusement ratissé la zone entre l'arrêt et la maison d'Hélène. Ils cherchaient tous les indices possibles, vêtements ou objets qu'un étranger aurait pu perdre. En même temps, des informations sur la disparition de la jeune femme étaient diffusées dans les villages environnants. Des plongeurs ont examiné les eaux proches, tandis que des policiers faisaient du porte-à-porte et interrogèrent les résidents. Ils ont également visité tous les magasins, pubs et cafés de Billing. La conversation avec le personnel du pub, George & Dragon, a fourni le premier indice, car cet établissement était situé près de la maison d'Hélène et elle y allait occasionnellement avec des amis. L'enquête a révélé que le propriétaire de l'établissement avait refusé l'entrée du bar à Hélène quelques jours avant l'incident en raison d'un désagréable incident. Elle avait eu une altercation avec une cliente ivre qui avait accidentellement renversé une boisson sur elle. Hélène ne voulait pas se battre et est allée aux toilettes pour se rafraîchir, mais la femme l'a suivie et a montré un comportement agressif. La situation a tellement dégénéré que l'inconnu a essayé de frapper Hélène. Finalement, le propriétaire du bar a demandé aux deux de partir et de ne pas revenir. Pour éclaircir cette histoire, les agents se sont rendus au bar le lendemain pour parler au propriétaire Ian Sims. De plus, cet endroit se trouvait exactement sur le chemin d'Hélène entre l'arrêt de bus et sa maison. Ian a raconté cette soirée et a expliqué qu'il avait dû demander aux deux femmes de partir pour ne pas déranger les autres clients. Pendant la conversation, le bar s'est rempli de gens et est devenu bruyant. Les policiers ont suggéré à Ian de poursuivre la conversation au poste, où ce serait plus calme. Et puis quelque chose d'étrange s'est produit. L'homme est devenu visiblement nerveux, a refusé d'aller avec eux et a essayé de mettre fin à la conversation. Cela a éveillé les soupçons des enquêteurs. Pourrait-il avoir quelque chose à voir avec la disparition d'Hélène ? Ils ont décidé d'examiner de plus près la personnalité d'Ian et ont appris sa réputation de coureur de jupons. Malgré son statut familial et ses deux enfants, Ian flirtait constamment avec d'autres femmes et tous les locaux le savaient. Les forces de l'ordre ont également découvert que cet homme accordait souvent une attention particulière à Hélène. Quand elle visitait son établissement, il lui offrait des friandises gratuites et essayait d'engager la conversation. Mais la jeune femme ne montrait aucun intérêt. Ce comportement d'un homme marié avec deux enfants lui semblait étrange. Les enquêteurs lui ont rendu visite à nouveau et se sont renseignés sur ce qu'il faisait le soir de la disparition d'Hélène. L'homme a raconté qu'il avait passé du temps avec une proche connaissance dans la pièce au-dessus de son établissement. Selon ses dires, il y passait souvent la nuit car il était préoccupé par la sécurité de son entreprise. Les enquêteurs ont parlé à la dame mentionnée, et là, une découverte inattendue les attendait. La femme a déclaré qu'ils avaient effectivement convenu de se rencontrer vers 7 heures du soir. Cependant, ce jour-là, il l'avait appelée et lui avait demandé de venir beaucoup plus tard. Finalement, elle est apparue vers 7h30, mais le propriétaire n'était pas là. Il n'est revenu que peu avant 11h. Cela semblait extrêmement suspect. Manifestement, Ian n'avait pas dit la vérité à la police sur son emploi du temps, ce qui a immédiatement attiré l'attention des enquêteurs. Un autre détail a frappé les enquêteurs comme inhabituel. Des marques fraîches étaient visibles sur le cou de l'homme. Il a expliqué les avoir reçus lors d'une dispute avec sa femme lorsqu'elle a appris son aventure. Cependant, en parlant avec la femme, celle-ci a nié avoir touché son mari de quelque manière que ce soit. Les policiers ont de nouveau parlé à Yann et son histoire a changé. Il affirmait maintenant que les marques s'étaient introduites lorsqu'il avait séparé Hélène et une autre cliente ivre le soir où il y avait eu une altercation dans le pub. Les enquêteurs ont parlé à la femme mentionnée et elle n'a pas non plus confirmé cette histoire. Selon ses dires, il n'y avait pas eu de bagarre et aucune d'entre elles n'avait laissé de marque sur le propriétaire du bar. Bientôt, la police a eu un témoin qui leur a fourni des informations troublantes. Le soir où Hélène a disparu, il marchait dans la rue et a soudainement entendu un cri aigu de femme. Le son venait directement du bar, mais s'est rapidement tu. Compte tenu de toutes les circonstances, les enquêteurs ont commencé à suspecter qu'Ian Sims pourrait être lié à la mystérieuse disparition de la jeune femme. Cependant, il continuait à tout nier. Les enquêteurs avaient trop besoin de preuves solides pour le lier à l'affaire. Sinon, il se retrouverait dans une impasse. Lors de l'examen du véhicule d'Ian, les agents ont fait deux découvertes troublantes. La première était plusieurs taches d'origine inconnue. La seconde était une boucle d'oreille de femme sur le plancher du véhicule. Le bijou a été montré à la mère d'Hélène, qui l'a identifié avec certitude comme appartenant à sa fille. Suite à cela, Yann a été arrêté pour suspicion d'implication dans la disparition d'Hélène, bien que son sort soit encore incertain. Lors de la perquisition du bar et de l'appartement au premier étage, de nouvelles preuves ont été trouvées. Dans les deux endroits, on a découvert des traces à peine visibles qui avaient apparemment été essuyées. Sur l'une de ces taches, les experts ont trouvé une empreinte digitale d'Ian. Dans l'appartement, on a également trouvé la partie manquante de la boucle d'oreille trouvée dans la voiture. Malgré les preuves recueillies, l'homme continuait à tout nier. Les enquêteurs soupçonnaient que quelque chose de grave était arrivé à Hélène, mais il devait la trouver. Sinon, le tribunal pourrait acquitter Yann. Il supposait que les traces dans le bar, l'appartement et la voiture étaient liées à la jeune femme. Cependant, à cette époque, on commençait seulement à utiliser les analyses ADN en criminologie, et effectuer une telle enquête n'était pas simple. Yann lui-même affirmait que les traces provenaient de son chien qui s'était blessé à la patte. Pour faire avancer l'enquête, les enquêteurs ont fait appel au public et ont demandé de l'aide pour une recherche plus étendue. Plus de 2000 personnes se sont portées volontaires, y compris des locaux et des résidents des communautés voisines. Les volontaires, avec les forces de l'ordre, ont soigneusement fouillé les environs de Billinge, y compris les forêts et les champs. Bientôt, une nouvelle piste est apparue dans l'affaire, mais elle n'a pas été découverte par un volontaire. À 25 km du village, dans la localité de Hollins Green, un homme promenant son chien a remarqué une serviette avec des taches suspectes sur le sol. En y regardant de plus près, il a trouvé une autre serviette similaire et plusieurs têtes d'oreiller. À côté se trouvaient des chaussettes d'homme, un pull et des sous-vêtements. Sur certains vêtements, on pouvait voir des traces inquiétantes. L'homme a signalé la découverte à la police et les objets ont été emportés pour examen. Il y avait cependant une complication. En raison de la distance par rapport à Billinge, des agents d'un autre service sont venus sur les lieux. Ils n'ont pas établi de lien entre cette découverte et la disparition d'Hélène McCourt. Pour cette raison, les enquêteurs chargés de sa recherche n'étaient même pas au courant de la découverte de ces objets. Finalement, les policiers ont bien reconnu un lien entre ces affaires. L'inscription sur le pull trouvé les a aidés. Sur l'objet trouvé, il y avait une inscription faisant la publicité d'une marque de bière qui était justement en promotion dans le bar George & Dragon. Quand les enquêteurs l'ont appris, ils ont soupçonné que tous ces objets appartenaient très probablement à Yann Sims. Les enquêteurs avaient de nombreux échantillons à analyser, mais il manquait une pièce cruciale pour demander un examen plus détaillé. En 88, ces méthodes n'étaient pas encore largement répandues. La police a décidé de comparer les échantillons du bar, de la voiture de Simms et des objets trouvés avec les analyses des proches parents d'Hélène, ses parents et son jeune frère. Les résultats ont montré une correspondance très étroite, garantissant pratiquement une relation familiale. Cela a renforcé la conviction des enquêteurs que les traces appartenaient à Allen et pointaient clairement vers l'implication d'Ian dans sa disparition. Le problème était que les tribunaux en Grande-Bretagne rendaient en très rarement des verdicts de culpabilité dans de tels cas sans la preuve principale. Aussi grave que soient là soient les preuves, aux yeux de la justice, il restait toujours la plus infime possibilité que la personne disparue puisse être encore en vie. La police espérait recueillir plus d'informations contre Ian et a interrogé tous ses contacts. Une conversation avec la femme de ménage du bar a révélé un nouvel épisode suspect. La femme a rapporté que le matin après la disparition d'Hélène, elle était venue travailler comme d'habitude pour nettoyer les locaux. À sa surprise, la femme a trouvé le propriétaire en train de faire un nettoyage en profondeur. Il frottait vigoureusement les sols, les murs et les tables. Et apparemment, il était occupé à cela depuis un bon moment. Ce qui était étrange dans cette situation, c'est que cela ne s'était jamais produit auparavant. Normalement, l'homme dormait encore dans son appartement à l'étage quand la femme de ménage arrivait pour le service du matin. À la question étonnée sur la raison de cette soudaine propreté, Ian a expliqué que son chien avait supposément fait un désordre. Un autre témoin a rapporté aux forces de l'ordre que cette nuit-là, en passant devant le bar, il avait entendu le bruit d'un aspirateur en marche. Les forces de l'ordre soupçonnaient qu'Ian avait passé toute la nuit à essayer d'effacer des traces, mais n'y était pas complètement parvenu. Malgré l'accumulation de faits suspects, l'affaire n'était toujours pas portée devant les tribunaux. Les enquêteurs ont poursuivi la recherche de la disparue, mais même les opérations à grande échelle n'ont pas donné de résultats. Un mois plus tard, un nouvel indice est apparu. Un passant qui se promenait au bord de la rivière, à environ 30 km de Billings, a remarqué un sac à main de femme dans l'herbe. En regardant à l'intérieur, il a trouvé des documents au nom d'Hélène McCart. Les policiers arrivés sur les lieux ont bientôt trouvé plus de preuves. À proximité, ils ont découvert des vêtements dans lesquels la jeune femme avait été vue le jour de sa disparition, ainsi que la deuxième boucle d'oreille qui correspondait à celle trouvée dans la voiture d'Ian. Cependant, les investigations ultérieures ont conduit les enquêteurs à une découverte encore plus troublante. À proximité, on a découvert une pelote de câble dans laquelle étaient emmêlées des mèches de cheveux. L'analyse en laboratoire a confirmé qu'elles appartenaient à Hélène McCart. En examinant le sac de la jeune femme, les enquêteurs ont trouvé un reçu d'une pharmacie à Saint Helens. Il s'est avéré qu'Hélène y avait fait des achats le soir où elle a été vue pour la dernière fois, peu avant de prendre le bus pour Billings. Les policiers ont trouvé tous les articles achetés à côté du sac à main, à l'exception d'une brosse à dents. Curieusement, l'article d'hygiène manquant n'a pas été trouvé à 30 km du village, où se trouvait le sac à main, mais dans le bar d'Ian Simms, où les enquêteurs poursuivaient leur examen minutieux. Là, ils ont également réussi à trouver une barrette que la mère d'Hélène a identifiée comme celle que la jeune femme avait utilisée pour aller au travail ce matin-là. Dans le bar, une autre preuve importante a été trouvée. Une mèche de cheveux de femme, dont l'appartenance à Hélène a été confirmée par une analyse. Néanmoins, les enquêteurs ont continué à chercher de nouveaux indices et ont envoyé les vêtements trouvés de la jeune femme pour examen. Les experts y ont découvert des fibres de tapis identiques à celles du bar George and Dragon. De plus, ils ont trouvé des traces de poils du chien Ian sur les vêtements. Ensuite, les experts ont examiné deux bagues et un bracelet qui avaient été retirés à l'homme après son arrestation. Ils y ont trouvé des traces de terre correspondant au sol de la zone où les serviettes sales et les affaires de Georges avaient été trouvées auparavant. Bientôt, une autre pièce à conviction est apparue. Près de la petite ville de Rixton, à 24 km de Billinge, une pelle a été trouvée. Il s'est avéré qu'elle appartenait à Ian Sims et avait probablement été utilisée en relation avec la disparition d'Hélène. Cependant, malgré les efforts de centaines de volontaires, on n'arrivait toujours pas à trouver la jeune femme elle-même. Face aux nombreuses preuves, les proches d'Hélène ne doutaient y guère d'une issue tragique. Cependant, l'absence de confirmation définitive les empêchait de faire leurs adieux de manière appropriée et d'être sûrs que le coupable serait justement puni. Ian niait obstinément son implication dans l'incident, mais finalement, l'affaire a été portée devant les tribunaux. Les audiences ont commencé un an après la disparition d'Hélène, en février 89. C'était l'une des premières affaires en Grande-Bretagne où l'on tentait de tenir quelqu'un pour responsable sans que la personne disparue n'ait été retrouvée. Par conséquent, malgré les preuves impressionnantes, l'accusation doutait du succès. Selon leur version, Hélène est descendue du bus ce soir-là et a pris son chemin habituel vers la maison. En passant devant le pub George and Dragon, elle a attiré l'attention d'Ian Sims, qui a entamé une conversation sous un prétexte quelconque. Peut-être l'homme voulait-il discuter de l'incident à cause duquel il lui avait interdit de fréquenter son établissement. Les enquêteurs ont supposé qu'Ian aurait pu proposer à Hélène de résoudre le conflit et de lever l'interdiction du pub. Compte tenu du fait que c'était presque le seul endroit à Billinge qu'Hélène pouvait visiter avec ses amis, elle était intéressée par la résolution du problème. Apparemment, l'homme l'a invitée dans l'établissement, qui n'avait plus de clients à ce moment-là. Peu après, quelque chose d'inattendu s'est produit, ce qui est confirmé par le témoignage d'un passant fortuit. Un cri féminin lui est parvenu, qui s'est rapidement tu. Après la rencontre avec Hélène, Ian a utilisé un morceau de câble électrique et l'a emmené dans son appartement au deuxième étage. Là, quelque chose de désagréable s'est peut-être produit, après quoi il a attendu jusqu'à l'aube et a emmené Hélène dans la voiture. L'homme l'a conduite loin de Billinge et l'a cachée, puis a distribué ses affaires, ses propres vêtements et d'autres objets dans divers endroits isolés. Il y avait plusieurs suppositions sur ses motivations. La première était de nature personnelle. D'après les rapports de nombreux témoins, les enquêteurs savaient qu'Ian avait montré à plusieurs reprises de l'intérêt pour la jeune femme, mais qu'elle l'avait toujours repoussée. Peut-être a-t-il vu ce soir-là une chance de mettre en œuvre ses intentions malsaines. La deuxième supposition était que pendant leur conversation, un malentendu était survenu et qu'il lui avait fait du mal dans un accès de colère. Il n'est pas exclu que lui et Hélène aient commencé à se disputer et qu'elle ait menacé de parler à sa femme de ses tentatives constantes d'approche. Mais cette version semblait moins crédible. Après que l'accusation eut présenté son cas devant le tribunal, ce fut au tour d'Ian. Il continuait à proclamer son innocence totale et à présenter sa version, et ce fut l'une des apparitions les plus inhabituelles d'une personne accusée d'un crime aussi grave. L'homme a affirmé que quelqu'un l'avait piégé. Quelqu'un était entré dans son bar, avait mis ses vêtements, avait attiré Hélène là-bas et lui avait fait du mal, puis l'avait chargé dans la voiture d'Ian et caché dans un endroit inconnu en utilisant les propres outils d'Ian. Ensuite, le malfaiteur aurait ramené la voiture au bar et aurait disparu, laissant le propriétaire innocent du pub sous suspicion. De telles déclarations étranges n'ont fait que renforcer la conviction du jury qu'Ian était impliqué dans l'incident. Son histoire semblait totalement incroyable. Peut-être a-t-il décidé, face à la probabilité d'une sentence sévère, de se moquer du système judiciaire et des proches d'Hélène. Finalement, Ian a été reconnu coupable le 14 mars de la même année. Il a été condamné à la prison à vie, avec la possibilité de demander une libération conditionnelle au plus tôt après 16 ans. Malheureusement, les épreuves pour les proches d'Hélène, ne se sont pas terminées là. Les forces de l'ordre et les volontaires ont poursuivi la recherche, mais sans succès. 3 ans après le verdict, la mère de la jeune femme a envoyé une lettre à Yann. Elle l'implorait de lui dire où se trouvait sa fille. Après un certain temps, une réponse est arrivée, mais elle ne contenait que des insultes et des menaces. Yann a promis de se venger de la femme dès sa sortie de prison. Il a fait appel à plusieurs reprises, mais tous ont été rejetés. Ce n'est qu'en 2004, alors qu'Yann avait déjà passé 15 ans derrière les barreaux, que l'un des appels a été accepté et l'affaire a été renvoyée pour révision. Cependant, cette décision ne s'est en aucun cas avérée en sa faveur. L'analyse moderne du matériel génétique a permis aux experts d'examiner les preuves et d'arriver à une conclusion définitive sur l'implication d'Yann dans l'incident. Suite à la révision de l'affaire, sa durée d'emprisonnement s'est en fait prolongée. Après 16 ans, Yann a tenté plusieurs fois d'obtenir une libération conditionnelle, mais toutes ses demandes ont été rejetées. Entre-temps, les proches d'Hélène n'ont pas abandonné leurs efforts pour connaître son sort. En 2015, la mère de la jeune femme a lancé une campagne publique pour modifier la législation en vigueur. Elle a proposé de priver les condamnés du droit à la libération conditionnelle tant qu'ils ne révèlent pas l'emplacement de la personne disparue. La femme a communiqué activement avec les médias, s'est adressée à la première ministre Theresa May et a organisé une pétition soutenue par des centaines de milliers de personnes. Grâce à ses efforts, l'affaire a été discutée au Parlement, et au début, les politiciens ont évalué positivement la possibilité d'adopter une telle loi. Cependant, le processus s'est prolongé et l'initiative a été reportée à plusieurs reprises. Tous ces retards ont conduit à ce qu'Ian Sims obtienne finalement une libération conditionnelle en novembre 2019, après 30 ans d'emprisonnement. Ce fut un coup dur pour la famille d'Hélène, car ils avaient pratiquement perdu l'espoir de connaître son sort. 3 mois après la décision, Yann Sims, âgé de 63 ans, a été libéré et est retourné à une vie normale. Malheureusement, son temps en liberté a été de courte durée. Fin juin 2022, l'homme est décédé des suites d'une maladie. Sans avoir révélé le secret du sort d'Hélène, la mère de la jeune femme, toujours pleine de détermination, ne perd pas espoir. Maintenant, elle espère qu'Yann aurait pu partager des informations avec l'un de ses co-détenus. De plus, elle continue à se battre pour l'adoption d'une loi qui empêcherait la libération conditionnelle des condamnés s'ils refusent de révéler l'emplacement des personnes disparues. Ainsi, l'histoire d'Hélène McCourt s'étend sur des décennies, bien que l'affaire elle-même ait été résolue en très peu de temps. Malgré des preuves irréfutables contre le coupable, il a obstinément gardé le silence sur des détails importants qui auraient permis aux proches d'Hélène de faire leurs adieux et de commencer à guérir leurs blessures émotionnelles.